Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Évangile et liberté, le mensuel du protestantisme libéral. Évangile et liberté, ou encore penser, critiquer et croire en toute liberté. D'ores et déjà, auditeurs, auditrices, je vous annonce que 2 numéros d'Évangile et liberté seront envoyés gratuitement à tous ceux et celles, tous ceux et toutes celles qui en feront la demande au numéro de téléphone suivant, le 09 53 43 45 71. Aujourd'hui, c'est avec une lectrice du mensuel Évangile et Liberté que nous allons découvrir le numéro du point d'avril. Et j'ai nommé Christiane Schlesing. Bonjour Christiane.
Bonjour Guylaine.
Un grand merci à vous de nous rejoindre dans les locaux de FM+, et de vous prêter à ce jeu de la lecture d'un mensuel. C'est pas évident.
Non, c'est pas évident, mais ça m'a rendu service en ce sens que j'ai essayé de le lire un peu plus attentivement que d'habitude.
Vous entendez, rédacteur en chef d'Évangile et Liberté, voilà, ce numéro a été lu de la première page à la dernière.
Oui. Ouais. Et donc j'ai beaucoup apprécié dans l'envoi et le billet de Pâques de
James
Moody.
Allez, on commence tout de suite. Voilà, on commence tout de suite. On ouvre et on tombe sur l'éditorial de James. Oui. Un éditorial qui est une fois signé par James, une fois signé par Abigail Bassac et une autre fois par Jean-Marie de Bourquenay, les trois directeurs de la publication, rédacteur en chef, je ne sais plus très bien comment on dit, d'Évangile et Liberté. Aujourd'hui, pour ce mois d'avril, c'était James Woody.
Oui.
Et ça vous a plu ?
Ça m'a plu parce que cette expression, cette injonction « debout les morts » pour nous parler de Pâques, me parle très fort.
Hein. Oui.
Voilà. Oui. Et ce que j'aime, c'est dans la mort et la résurrection, ça me donne à penser. Tous ces textes me donnent à penser. La mort et la résurrection, c'est un peu comme... La résurrection, c'est le double de la mort. Enfin, la vie, c'est le double de la mort. Hein. Ou la mort, le double de la vie. Comme le silence est le double de la parole. Ou comme l'inconscient serait le double du conscient.
Quand vous dites double, vous dites comme un miroir ?
Comme une doublure. Quelque chose qui... Voilà, une étoffe faite de deux trames proches, contiguës. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Voilà. Et donc, il nous dit que c'est au moment où Jésus rend l'esprit qu'une véritable insurrection de la vie se fait. Que dans l'expire de Jésus, c'est ce qui me vient, l'inspire est pour nous. L'inspire est ouvert pour l'humanité.
Voilà, un bel éditorial de James Woody, qui est pasteur à l'église protestante de Montpellier, qui nous fait donc un éditorial. Bien, alors on continue à tourner les pages, Christiane. Je vois que vous aviez suivi... Vous lisez comme ça le mensuel Évangile et Liberté.
Il y en a
qui commencent par la fin, qui commencent par la quatrième de couverture.
Oui.
Là, c'est vraiment l'exercice.
Oui.
L'exercice radiophonique. Alors, quel autre article vous a donc arrêté, Christiane Schlesing ?
Eh bien, cet article d'André Gounel, qui avec ce titre « Dieu n'a pas voulu la mort de Jésus ». Et c'est vrai qu'il nous aide à nous décoller d'une théologie du sacrifice du Christ. Est-ce que Dieu aurait réussi en sacrifiant son fils là où il avait au contraire arrêté le bras d'Abraham sur Isaac ?
Ouais.
Bon, cette notion de sacrifice, c'est vrai, est difficile aujourd'hui à entendre. Et donc, je suis très touchée quand il propose l'idée que la croix est comme un revers. Voilà, comme une faille, comme un moment de faiblesse de Dieu, mais qui va déboucher sur la vie. Hein. Dieu n'a pas voulu la mort, mais il a voulu la vie.
Voilà, donc voilà, il répond à cette question-là, qui reste, c'est vrai, une question que peut-être bon nombre d'entre nous posons finalement. Hein. Là, il est très très clair, Dieu a veut la vie, et avant tout. Alors, nous continuons à tourner les pages de ce mensuel Évangile et Liberté du mois d'avril. Et nous arrivons à où nous arrêtons-nous, Christiane? C'est vous aujourd'hui qui drivez l'émission.
Oui,
hein.
je peux dire un mot sur ce témoignage, enfin cette historique un peu des églises fondamentalistes de la évangélique de la Corée du Sud. Mm-hmm. Bon, c'est une page dans le fond d'histoire et d'information qui m'a permis de m'intéresser à ces églises. Des notions que je n'avais pas du tout, et donc qui engage ces églises à dépasser leur héritage. Il semblerait qu'elles soient quand même très liées par le fondamentalisme des missionnaires de la fin du 18e, du 19e, hein, en 1884, je crois, des missionnaires fondateurs américains, voilà, et qui proclame un évangile très, très conservateur, très... oui. Et donc...
Voilà, une découverte. Hein, c'est dans la rubrique Vue d'ailleurs. Oui, donc, oui. C'est vraiment un espace où on ouvre une fenêtre sur des pays vers lesquels peut-être on ne connaît pas, ou en tout cas où l'on voit la situation de l'Église protestante, des églises protestantes dans ces pays. Et l'article est signé par Yunu Peik, qui est un pasteur dans l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, et lui-même est arrivé à Paris depuis la Corée du Sud pour ses études alors qu'il était encore adolescent. Il a commencé par être philosophe. Donc maintenant devenu pasteur à Neuchâtel. Voilà, c'est l'article sur la Corée du Sud pour les églises protestantes dépasser l'héritage. Vous l'avez très bien dit, on ne s'arrête peut-être pas à ce fondamentalisme-là. Voilà, il y a l'ambition d'aller au-delà, si je peux me permettre. Alors, sur la même page, on a la petite tribune de Maxime Michelet. Tu combattras ton prochain comme toi-même.
Oui, avec cette phrase très forte. Hein, certaines idées ne sont pas des opinions, mais des délits qu'il convient de combattre. Hein. La libre expression autorisée à tous n'est pas suffisante du tout. Hein. Le juste milieu, les compromis pour ne pas faire de peine, ne valent pas. Il est vraiment important d'aimer son prochain, ce n'est pas être d'accord avec tout ce qu'il proclame et énonce, c'est le combattre vigoureusement quand ses opinions sont des délits.
Alors Maxime Michelet, voilà, c'est une plume qui vient de rejoindre le comité de rédaction d'Évangile et Liberté depuis peut-être maintenant bientôt un an. Il est arrivé avant l'été. C'est un historien du 19e siècle, et je dois dire que personnellement j'apprécie énormément sa prise de position et puis son écriture. Voilà, il a l'art, dans cette petite tribune libre, d'une façon très synthétique, d'arriver à nous convaincre et à développer, voilà, en très très peu de signes, cette idée que aimer, ce n'est pas tout admettre.
Oui, tout à fait.
Tu combattras ton prochain comme toi-même. Maxime Michelet. On continue avec Jérôme Grandet, l'accompagnement spirituel et laïque.
Oui.
Ou bien celui-ci, vous l'avez fait sauter. Vous avez le droit, Christiane, c'est la liberté, comme disait Daniel Pénac, hein, c'est d'ouvrir le livre et la revue à l'endroit où nous le voulons.
Oui, je ne...
Pas de commentaires sur l'accompagnement spirituel et laïque, mais voilà, Jérôme Grandet, il en sera question au Cercle d'Évangile et Liberté de Montpellier. C'est l'article que j'ai choisi pour travailler dans le Cercle, voilà. Donc, mais celui-ci, on le passe parce qu'aujourd'hui, c'est Christiane Schlesing qui décide de la lecture d'Évangile et Liberté.
Voilà, ensuite, cette rubrique sur les gros mots de la théologie, je ne vais pas m'arrêter spécialement sur celui-là, mais il est donc présent dans chacun des numéros, et il me paraît tout à fait intéressant, parce qu'il témoigne de la volonté de cette théologie libérale de faire travailler le langage, de trouver un langage d'ouvrir le langage, d'ouvrir les gros mots qui pèsent dans nos traditions, et d'essayer de les renouveler de l'intérieur en tenant compte essentiellement du contexte dans lequel il peut être employé. Voilà, je suis très sensible au fait que la théologie libérale s'intéresse puissamment au contexte.
Voilà, c'est un voilà Céline Romer, qui est professeure de Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante de Montpellier, a choisi le mot kérigme, ou l'histoire d'un mot devenu trop gros, nous dit-elle, avec beaucoup d'humour. Voilà, le kérigme. Bon, voilà, c'est une série qui continue dans tous les numéros d'Évangile et Liberté. La page suivante, on passe. C'est une œuvre d'art et puis
faite de blanc et de gris, très abstraite, très suggestive, mais qui parle à sa façon de la mort et de la résurrection. Voilà, dans des tons très très proches, d'une grande proximité.
C'est
du blanc et du gris.
Voilà, c'est la pose artistique dans le mensuel Évangile et Liberté. Et puis j'en profite tout naturellement, Christiane, pour vous proposer nous aussi une pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Sur FM+, c'est une émission en partenariat avec Fréquence Protestante à Paris que nous saluons. Nous saluons les Parisiens, les protestants libéraux et les autres, bien sûr. Nous sommes en train de lire Évangile et Liberté, le numéro du mois d'avril, d'avril 2019, un numéro qui vous est envoyé, chers amis, gratuitement, si vous appelez le numéro de téléphone suivant 09 53 43, 45, 71. C'est une lecture que je fais en compagnie de Christiane Schlesing. Comment est-ce que je pourrais vous présenter, Christiane, engagée dans l'église protestante de Montpellier? Quoi d'autre encore? C'est la petite partie que je connais de vous, bibliste?
Oui. Non, pas bibliste.
Pas
non,
bibliste, vous voyez, non, vous voyez non, comment, comment je ne veux pas m'aventurer?
Non, très, très attachée et très fidèle à cette vie cultuelle et culturelle de notre église à Montpellier, tout en essayant de rester ouverte, le plus ouverte possible, au monde.
Merci en tout cas d'avoir parcouru ce numéro d'Évangile et Liberté. Alors nous en sommes pratiquement au milieu de la revue, un peu moins quand même, au premier tiers. Et il y a toujours des ouvrages proposés dans la rubrique culture, des ouvrages de lecture, des lectures proposées. Et vous avez été particulièrement intéressée par l'un d'entre eux, Christiane.
Oui. Après la réforme qu'il faut citer quand même, un nouveau numéro aux presses universitaires de France.
Ah oui, un que sais-je.
Oui, un que sais-je de Pierre-Olivier Léchaud sur la réforme.
Ouais.
Voilà. J'ai lu un article qui concerne le dernier ouvrage de Delphine Horviller, cette femme rabbin assez médiatique aujourd'hui, mais très, très inspirée, très vivante, très, très opiniâtre dans ses prises de position et ses déclarations magnifiques. Et donc, il vient d'écrire « Réflexion », on pourrait dire entre parenthèses « juive », sur la question antisémite. Mmh. Et ce que j'ai retenu, ce n'est pas un livre que j'ai encore lu, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'elle avait le souci d'interroger les textes sacrés et la tradition rabbinique sur leur regard intérieur sur l'antisémitisme. Et j'ai été très, très sensible à cette constatation qu'elle fait que les héros juifs sont des boiteux, des aveugles, boiteux comme Jacob, aveugles comme Isaac, bègues comme Moïse, stériles comme Abraham, et que donc ils nous disent, tous ces textes nous parlent de la faille, des limites qui nous habitent, qui nous constituent, donc d'une identité qui est construite sur une faille, et c'est peut-être une des dimensions que nous avons de la peine à supporter chez les Juifs. Voilà, enfin c'est quelque chose qui remet profondément en cause, en parlant de notre identité humaine.
Absolument. Alors nous arrivons tranquillement au dossier. au dossier d'Évangile et Liberté. Et là, le dossier Huldrych Zwingli.
Oui, alors ce Zwingli, je n'ose pas prononcer son prénom.
C'est vrai, Z-W-I-N-G-L-I, précédé d'un prénom Huldrych.
Oui.
Voilà.
M'a paru bien sympathique. Voilà, peut-être moins tourmenté. J'ai compris qu'il était beaucoup moins tourmenté que Luther sur la question de son salut. Mais que c'était peut-être quand même le fil de son histoire. Curé. Il a fait tout un cheminement et c'est petit à petit qu'il est devenu réformateur. Je ne vais pas dire sans le vouloir, mais justement en travaillant les textes au plus profond et d'une manière assez systématique, je crois, en expliquant les livres du Nouveau Testament les uns après les autres, qu'il a bâti sa prédication et qu'il a rappelé que ces textes fondateurs étaient la connaissance et la proximité de ces textes fondateurs étaient capitaux. Et c'est ainsi qu'il va, en réformateur, dénoncer les abus de l'Église qui par exemple, de la hiérarchie catholique, des prêtres et des évêques qui se mêlent de décider si l'un ou l'autre de leurs ouailles sont aptes à accéder à la scène, par exemple. Donc, il s'insurge complètement contre cette autorité malvenue et pas biblique du tout. Voilà.
Voilà, une biographie, une présentation aussi de la théologie de Zwingli par Bernard Raymond, qui est pasteur honoraire et professeur honoraire, pardon, pasteur toujours. Et c'est un homme, Bernard Raymond, intéressé par les liens entre la religion et l'art. Et là, il s'intéresse en particulier à Zwingli.
Oui, moi j'ai retenu de ce Zwingli, qu'il avait le souci, alors comme Luther, me semble-t-il, de pouvoir être compris des moins lettrés. Lui aussi, il est sensible à cette question du langage. Et puis, j'ai compris qu'il avait justement que ses articles et ses thèses à lui, je crois qu'ils datent de 1523, ont été l'aboutissement de disputes entre citoyens, cette fameuse disputatio qu'on essaye de réinstaurer peut-être dans notre monde protestant, avec qui souligne la nécessité de... pour chacun de se prononcer, de prendre la parole, et d'écouter l'autre.
Voilà, un théologien peut-être moins connu que Martin Luther, bien sûr, mais tout aussi dans la même ligne de pensée que son maître. Nous continuons à parcourir Évangile et Liberté pour arriver à la fin du dossier avec des textes de Zwingli eux-mêmes. On a des extraits de l'œuvre de Zwingli. Alors, est-ce que vous vous arrêtez à la halte qui est une sorte de poésie, une prière, aujourd'hui, chemin vers la vie de Saint-Gère.
Oui,
voilà.
Oui.
Après la halte iconographique, il y a une halte spirituelle.
Poétique et spirituelle, oui. Est-ce que je vois que c'est un petit poème, est-ce que je le lirai, par exemple?
Oui, volontiers. Nous vous écoutons, Christiane.
Chemin vers la vie de Charles Saint-Gère. Merci pour Jésus-Christ. Par son passage à travers la mort, il a orienté le voyage des hommes, définitivement, vers la vie. Nous t'en prions, Père de Jésus-Christ et notre Père, que la joyeuse nouvelle de la résurrection demeure brûlante en nous, qu'elle nous accompagne comme une parole et une musique obstinée, afin qu'en transfigurant notre vie, elles parviennent à tous nos frères et les réjouissent dans leur patient pèlerinage de chaque jour. Donc de Charles Saint-Gère.
Merci. Donc évidemment, c'est en lien avec, je l'entends comme ça, bien sûr, la résurrection. Est-ce que nous continuons avec la parole catholique d'Emmanuel Gougou, Pâques, un oxymore pour aujourd'hui? Ou est-ce que...
Oui, si. Cet article m'a beaucoup intéressée parce qu'il a rappelé que dans le fond, nous, protestants, nous étions très, très en accord avec cette prédication qui autorise le doute. Il nous est permis de douter. Alors là, les protestants ne doutent pas qu'il leur est permis de douter.
C'est ça.
Mais... Donc, l'auteur de cet ouais. article voilà, nous rappelle que peut-être il y aurait plus de risques et ça nous caresserait moins dans le sens du poil que de nous imaginer que nous avons la permission de croire et de professer Jésus comme Seigneur et Dieu. Et effectivement, le texte qui nous rapporte les paroles de Thomas, qui dit qu'il veut voir les stigmates sur le corps du Christ pour croire, quand Jésus se présente à lui et lui montre, il bascule d'un seul coup dans la confession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et je rappelle cette image de la doublure, la foi est doublée du doute, mais le doute est doublé d'un acte et d'une parole de foi.
Oui.
Oui, de même que le père de ça me renvoie au texte du père de l'enfant muet. Qui dit Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Les deux se télescopent en quelque sorte, ou les deux vont ensemble. C'est pas un temps après l'autre. Enfin, il peut y avoir un temps après l'autre, mais là, les deux sont vraiment tenus ensemble.
Dans la rubrique Repenser, nous avons un texte sur la prédication de Pâques. Avec l'importance du contexte, est-ce que cela vous a arrêté de Jeff Seaton, Pas vraiment. Écoutez, on peut avancer tranquillement. Voilà, les auditeurs, je le rappelle, peuvent demander un numéro gratuit au téléphone que j'ai donné tout à l'heure, que je redonne tout de suite, le 09 53 43 45 71. Et évidemment, avec Christiane, nous ne pouvons pas tout lire, tout dire, mais il suffit d'en demander, vous le recevrez gratuitement. Alors, à nouveau, l'article de Constance Luzzatti, Actus Tragicus, sur, la force d'un détail musical dans une perspective théologique.
Oui, alors, moi, ce qui m'a plu, c'est que de même que dans cette théologie libérale, on croit profondément que Dieu n'est pas enfermé dans les églises et que surtout, il faut l'en sortir, que Dieu nous parle à travers la nature, à travers dans le monde tel qu'il est et dans l'art. Voilà, ce qui m'a plu, c'est que j'ai été appelée à écouter. Grâce à Internet, j'ai tapé Actus Tragicus et j'ai pu entendre cette magnifique cantate BWV 106 de Bach. Voilà, et je l'ai écoutée, j'ai effectivement entendu cette douceur extraordinaire de Bach.
Telle que l'expose Constance Luzzatti dans ce numéro.
Oui.
Elle est elle-même musicienne et théologienne.
Oui.
Donc elle a tout à fait la compétence pour nous éclairer peut-être sur des sons, des cantates que nous n'avions peut-être pas entendus de la même façon jusqu'alors.
Oui, les mouvements internes d'une cantate.
Voilà.
Très belle, très très recueillie, que j'ai ressenti comme très intériorisée.
Les jardiniers de Dieu, un commentaire biblique d'Henri Persos, Luc 13.
Oui. J'ai pas grand chose à en dire, mais c'est important qu'il y ait dans chacun de ces numéros un commentaire biblique, très très libre et qui essaye aussi un peu de déboussiérer les lectures que nous avons faites depuis notre enfance et qui peuvent peut-être nous encombrer ou compliquer les choses, alors que là, Henri Persos nous dit quelque chose de très simple, que que le propriétaire peut-être s'intéresse au gain, à la productivité de sa vigne et de son arbre surtout, qui ne donne pas de fruits, et que son ouvrier lui rappelle qu'il faut du temps et pour prendre soin peut-être de ce jardin qui nous est donné.
Voilà l'article dans Doris Persoz comme commentaire biblique. Et nous allons devoir tout de suite nous tourner vers la quatrième de couverture et la phrase de fin, à moins que vous ayez une dernière petite, il vous reste deux secondes si vous voulez intervenir sur le texte de Laurent Gagnebin, pas cette fois-ci. Nous le laissons découvrir à nos auditeurs et auditrices. Et nous en avons terminé, Christiane.
Oui, oui, oui. Si ce n'est que, voilà, je peux dire que dans le numéro précédent, j'ai découvert cette théologie qui nous vient des États-Unis, hein, du process. Et donc là aussi, ce que, même si ça me rend un peu perplexe, même s'il faut que je fasse une gymnastique un peu et affective et intellectuelle pour entrer dans ces nouvelles terminologies, parce qu'il y a quand même une recherche de langage, mais Dieu y est parlé comme force de proposition, comme énergie de transformation, comme l'irruption d'impossible vers plus d'épanouissement, voilà, comme une invitation à grandir, une invitation à nous accomplir toujours davantage. Bon, même si ça m'interpelle, voilà, parce que j'ai pas l'habitude de parler de Dieu comme ça, comme pulsion de vie, on va dire. Pourquoi pas.
Voilà. Merci, un grand merci, Christiane Schlesing, de vous être prêtée à ce jeu de la lecture devant un micro, en partageant vos impressions de ce numéro d'Évangile et Liberté du mois d'avril. Du mois d'avril, un dossier consacré à Aldrich Zwingli. Bien sûr, Christiane, nous n'avons pas tout lu, tout dit. Et je le répète, vous pouvez, auditeurs, auditrices, commander deux numéros gratuitement au 09 53 43 45 71. Et c'est avec un immense plaisir que nous vous l'enverrons. Au revoir.
Merci, Guylaine.
Au revoir.